Mark Elder. Le peuple de la mer. Première partie, la barque. Chapitre 1. 9 heures sonnaient, au timbre fêlé de l'église, quand Urbain Coët sortit de chez Goustan. Sur le seuil, que la lampe tinta de lumière rouge, le vieux Mathieu l'assura de nouveau en lui serrant la main. « Eh, tu seras content, mon gars. Ta barque sera belle. » Urbain partit, emporté doucement, comme à la voile, par son cœur et roulant dans le bonheur. Ses galoches fouettaient le pavage inégal du quai, dominé de mâtures à demi effacées par la nuit. Il savait que sa barque reposait là-bas, de l'autre côté du port, sous un hangar indistinct, mais vers lequel il regarda par habitude et par plaisir. Il crut rêver et s'arrêta court. Une lueur a fulguré dans les ténèbres et l'eau lui apporte un craquement de planches, un froissement de copeaux. D'instinct, il s'immobilise en arrêt, sondant la nuit de tous ses sens, et il devine les mouvements d'une ombre sous l'enclos du chantier. Silencieusement, Urbain tire ses galoches, se trousse et descend à la yole qui flotte au bas de l'escalier. Il déborde sans bruit, glisse à coups étouffés de godille, accoste. Mais à peine arrive-t-il au coin du baraquement qu'une flambée lui brûle les yeux. D'un saut, Coët tombe sur un homme accroupi, l'enlève et d'un effort énorme le culbute en plein port. Un choc sur la mer. Coët s'est jeté vers le feu qui l'étouffe sous sa vareuse, sous ses pieds, follement. Les flammes s'affaissent, s'écrasent et il poursuit, le béret au poing, celle qui rampe. D'un lougre, une voix elle à trois reprises. L'eau claque sous les coupes hâtives d'un nageur. Urbain tâte avec soin le sol autour de lui, éteint des braises, écoute. La nuit est immobile, comme un bloc que le feu tournant du pilier tranche, ainsi qu'une lame. Longtemps, il reste de garde autour du chantier, encore bouleversé de peur, imaginant sa barque en flamme. Une brûlure cuit son gros orteil gauche, qu'il va de temps à autre tremper dans l'étier. Il dénombre ses ennemis. Les deux Aquenettes, Julien Perchet, l'égo. Il n'a pas reconnu l'homme, mais il frémit de l'intention incendiaire et il voudrait toucher sa barque, la prendre à plein bras, comme un être cher sauvé d'une catastrophe. Il fallut les coups grêles de minuit pour lui rappeler que la Marie-Jeanne l'attendait chez lui, à l'Herbaudière, et qu'il avait 6 kilomètres de route. L'obscurité immuable et douce lui était devenue confiante, sous l'éclat obstiné du grand phare tournant. Il décida la retraite, mais le jusant ayant échoué la yole, il longea l'étier du côté des marais jusqu'à l'écluse dont le bâti s'élevait dans les étoiles en manière de guillotine. Le lendemain, il revint dès 6 heures et il vit l'épreuve. Des copeaux brûlés, une plaque d'herbe roussie. La varlope criait déjà sur le chêne. Il entra et, joyeusement, il reconnut sa barque. Elle montait, énorme, dans le petit chantier du père Goustan, qu'elle emplissait jusqu'au faîte. C'était une barque de 27 pieds, bien coffrée, puissante, l'étrave haute et l'avant taillée d'aplomb comme un coin, pour mieux fendre les lames. Au milieu des flancs, qui n'étaient point entièrement bordés, les membrures, quasi brutes, apparaissaient arquées comme des côtes, tellement près à près et massives que le bateau semblait bûcher dans un monstrueux tronc de chêne. Orgueilleux de son œuvre, le père Goustan lâcha l'herminette pour venir à petits pas se camper près d'Urbain Coët. Il releva d'un geste familier la large salopette qui juponnait autour de ses vieilles jambes, redressa son échine, essuya ses lunettes et déclara « C'est du travail, ça, mon gars, et du solide !» Alors son fils, François, qui rabotait les dessous de la barque, à plat d'eau parmi les copeaux, s'interrompit pour prononcer « Fossa, pour battre la mer !» Et Théodore, le petit-fils, du haut du pont, où il bricolait, jeta d'enthousiasme « Et pour tailler de la route !» Point bavard, Urbain Coët souriait simplement aux exclamations coutumières des trois générations. Il savait que l'ancien parlait toujours pour vanter son expérience d'un métier enseigné à ses enfants et que ses enfants approuvaient à l'unisson. Urbain Coët estimait une sage routine. Il n'était point assez fou pour discuter les connaissances des vieux, surtout quand il les jugeait de bonnes sources. Et le père Goustan avait travaillé dans la grande ville de Nantes, sous le second empereur, du temps des frégates et de la belle marine en bois. Au chantier de Noirmoutier, on n'utilise que l'herminette et le rabot en cormier cintré. Les Goustans ignorent la ferraille des outils américains. Ils élèvent des barques au petit bonheur, à vue de nez, en méprisant les calculs et le dessin. « La mer !» dit le vieux. « C'est-il une dame avec qui on compte ?» Ils font trapus, robustes, à force de chaînes assemblées définitivement. Ils ont deux marteaux pour trois et une seule tenaille, dont un coin est brisé. Depuis 2 ans, à chaque fois qu'il arrache un clou, François crie qu'il va la remplacer. Mais le père, derrière ses lunettes, constate qu'elle peut encore aller, et l'on remet l'achat. Quand ils ont à percer des trous profonds, Théodore court emprunter une tarière à Malchaussée, le charpentier, qui demeure en ville, de l'autre côté du port, sur la place d'Armes. Dans un angle du hangar, la meule est fichée au mur par deux montants. Au-dessus, un sabot, la pointe en bas, sert de réservoir et pisse de l'eau par un petit trou bouché d'un fossé. L'affûtage des lames est la prérogative des aînés. Théodore tourne la meule qui geint sur un rythme régulier. Derrière le chantier, une palissade en voligue garde du vent de mer un enclos où végètent des poiriers bas, des artichauts, des citrouilles et un cerisier dont on suppute annuellement la production. Il penche tout contre une fenêtre et c'est plaisir de voir, en travaillant, danser les fruits rouges parmi les feuilles. Chargé de le veiller, Théodore tape avec son marteau sur l'établi dès qu'il aperçoit les oiseaux voraces. Le chantier Goustan a de la réputation hors de l'île, dans les ports voisins de la Vendée, et jusque sur la côte bretonne, par-delà l'estuaire de la Loire. C'est un brevet pour une chaloupe de sortir de chez Mathieu Goustan. Les connaisseurs ne se trompent point sur sa manière et retrouvent aisément sa marque dans l'étroitesse exagérée des arrières. Ainsi, la barque de Coët troublait les esprits par ses airs athlétiques et souples, son avant en muraille, ses joues effacées, sa voûte fuyante qui déconcertait les patrons des côtes réputées. Et surtout, parce qu'Urbain avait toujours paru pauvre et qu'un sloop de 27 pieds coûtait 1000 écus. Urbain Coët était taciturne. Un gaillard qui ne parle pas fait parler, et c'est mauvais signe. Les hommes ne le rencontraient jamais chez Zacharie le cabaretier, et les femmes citaient son courage en exemple. C'était de quoi l'avoir en méfiance. Et à présent qu'il devenait propriétaire du plus beau sloop de l'Herbaudière, le pays entier gonflait de jalousie. Urbain Coët aurait voulu l'ignorer. Tous les jours, il satisfaisait ses yeux à contempler sa barque, en écoutant le cœur vantard des trois générations. Et, à mesure que le bateau grandissait, il le couvrait d'huile claire qui nourrit le bois et contient les tanins du chêne. C'était déjà l'été. Le soleil chauffait comme un four le chantier, dont les parois en planches craquaient et tendaient sous l'effort tranchant des rayons. Le goudron fondu dans les marmites, la résine amollie du sapin sentait âcrement par-dessus l'odeur verte des bois frais. Près de la fenêtre, les cerises écarlates luisaient dans l'atmosphère vibrante. Et, à l'opposé, du côté du port, sur la cale qui penche vers le calme liseré de sel, la vase pâlissait, asséchée, et se craquelait comme le vernis d'une faïence. Sans souci de la chaleur, Urbain Coët, le béret sur les yeux, avait empoigné le pinceau et badigeonnait. François, allongé dans les copeaux, rabotait mollement en criant de soif. Son fils guettait à la fois l'épaisse autour du cerisier et la marée pour estimer son rapport. Grand-père bûchait. Et Julien Perchet entra dans une bouffée de soleil, s'arrêta, les bras croisés, en balançant son buste d'Hercule, droit, en face de la barque fière, et regarda les paupières clignées. Le père Goustan monta vers lui, sans hâte, et la tête levée pour saisir l'approbation sur le visage du colosse qui le dominait depuis le coude. « C'est-il travaillé, ça, patron ?» Perchet gratta sa tignasse rousse de sa main paralysée, que l'on nommait, dans le pays, sa main d'or, parce qu'elle rapportait une pension. Son torse, à plein maillot, oscilla comme une bouée. Il modula à goguenard. « On verra ça sur l'eau. » François grouilla dans les copeaux comme un chien mécontent et riposta en frappant du poing les formes du bateau. « C'est tout de même point ton « laissez-les dire » qu'il y a de ces façons-là. » Perchet eut un sourire ambigu sur sa face écarie, tavelée de son et fournie d'un poil roux qui brillait à la lumière. Il sifflota en tournant le dos, et Coët évalua la carrure de ce maillot où les omoplates jouaient lourdement comme des hanches. Il ne se rappelait pas si l'homme de la nuit était grand. Il l'avait cueilli au ras du sol et basculé dans le port. Il ne lui avait même pas semblé pesant, tant la colère décuplait ses forces. Et ses doigts n'avaient gardé aucune impression précise qui pût favoriser des présomptions. Et brusquement, à leur tour, surgirent de la porte ouverte Aquenette le Nain et son frère, qui devaient le surnom de double nerf à l'ampleur glorieuse de ses biceps, autour desquels était tatoué un brassard de fer éclaté. Les mains dans les poches, l'œil embusqué dans l'ombre du béret, ils descendirent, l'air négligent, en roulant dans leurs galoches, sous les flancs du bateau. Urbain fut presque saisi, mais, volontairement, il serra la brosse et se remit à peindre. Pourquoi Perchet et les Aquenette n'étaient-ils pas en mer? Pourquoi venaient-ils justement ce matin? Bien sûr, un chantier, c'est quasiment comme un cabaret, sauf qu'on n'y boit pas. La maison de tout le monde, où chacun entre à sa guise, s'assoit, regarde, cause. Mais comme ils arrivaient à propos, ceux-là, on aurait dit pour voir si le coup avait réussi ou ce qui restait de leur crime. Tout d'un coup, Urbain leva la tête vers les hommes et il les vit alignés, le dos à l'établi, les bras croisés. Son regard glissa sur leurs yeux et ils en soutinrent la pression parce qu'il ne s'arrêta sur aucun d'eux. Coët se disait « Quel est le coupable ?» Mais eux connurent à son hésitation qu'ils ne savaient pas, et ils se rengorgèrent dans l'assurance. La barque s'enlevait au-dessus de leur tête, sereine et dédaigneuse, avec ses bordées qui se retroussaient à l'avant le long de l'étrave. Grand-père lui ajustait un parclos en tâtonnant, et Théodore, là-haut, faisait sonner à coups de marteau le pont arqué comme un thorax. Et, avant de reprendre son travail, dans un mouvement d'heureuse insolence, Urbain Coët caressa ses belles formes, ainsi que les flancs vastes d'une femme accueillante. Au bout d'un moment, le nain, courtot et la face camuse, élargie d'un fer à cheval de barbe drue, s'en vint fouiner autour du sloop en remuant les copeaux avec ses galoches. Urbain Coët, sous son béret, n'y prit pas garde et s'obstina dans sa peinture. « Comment que tu le nommes, ton bateau ?» fit le nain. Urbain mit du temps à répondre. Je sais point encore. Les noms des barques sorties du chantier s'alignaient au mur à la manière d'ex-votolo datif. C'était l'espoir en Dieu, le brin d'amour, l'aimable Clara, l'ange voyageur, le bon pasteur, le bec salé, et d'autres, alternativement pieux ou gaillard. « Ce sera le va de l'avant !» proclama Théodore. « Il se démentirait point !» affirma François. Perchet hocha soudain la tête en fronçant les sourcils. Doublenaire ricana, et son frère lâcha du coin des lèvres. « Il n'y a pas que la barque, il y a l'homme !» Urbain Coët retroussa son béret et regarda bien en face à Quenette qui fit demi-tour négligemment. Doublenaire avança, le torse en avant, et laissa tomber son poing, lourd, au bout du bras, comme une massue. Urbain paraissait petit, presque chétif, sous la vareuse claire. Mais il sourit, et, soulevant un poids de 40 livres à ses pieds, il le lança au bout du chantier, sans effort, ainsi qu'une pierre. Favorable aux rivalités qui entretiennent le commerce et la lutte, François concluait « Enfin, les gars, on verra les meilleurs quand on s'alignera aux régates !» Perchet et les deux à Quenette ne répondirent pas. Dédaigneux, ils s'assirent sur l'établi, les jambes pendantes, découvrant leurs chaussettes groseilles entre la galoche et la salopette bleue. Perchet repoussa en arrière la casquette qu'il porte seul à l'herbaudière. Pour se donner des allures de yachtman, et des poils roux débordèrent sur son front tanné. À son poignet, on pouvait lire la devise qu'il a gravée au tableau de sa barque. « Laissez-les dire !» Le rabot criait sur le chêne. Grand-père abattait des copeaux à coups réguliers d'herminette. Une planche craquait de chaleur. Et il demeurait là, tassé, méditatif, avec le calme taciturne des marins apaisés par la fascination de la mer. Ce fut Urbain qui, le premier, aperçut la gaude quand elle se présenta en cotillon court de sablaise avec un journal épinglé en voûte sur les cheveux. Il songea « C'est juste, son mari l'envoie aux nouvelles. » Et il pensa lui dire, pour rire un brin, « Tu vois, ma barque est encore debout. » Mais elle passa près de lui sans le regarder, les seins offerts dans leur forme tentante, quasi nus sous la cotonnade rose, les hanches vivantes et les mollets d'aplomb dans ses sabots vernis. « Y a-t-il moyen d'avoir du coltard ? » demanda-t-elle. « Ton mari est trop feignant pour venir, » dit François Goustan en descendant vers la jeune femme. « Go est à dormir, » répondit-elle. « Tu l'as fatigué un petit. Et que j'en fatiguerai d'autres. Et c'est point vous tous qui me faites peur, » déclara-t-elle en riant de toutes ses dents éclatantes. Les hommes rigolaient, couvaient la femelle du regard, remuaient déjà dans leurs instincts. Urbain Coët poursuivait paisiblement sa peinture. Familièrement, la gaude était venue parmi les mâles qui la palpaient, la chatouillaient, s'excitaient à dire des obscénités. Elle se roulait de rire, trémoussait sa chair ferme qui sentait la sueur des selles et distribuait de rudes taloches pour jouer. Le père Goustan ranimait des souvenirs dans sa vieille mémoire en la guignant derrière ses lunettes. Il lui vanta son œuvre, fit l'article. « C'est aussi beau que toi, une barque comme ça. On a les gabarits. Si Go voulait, on lui construirait l'appareil. Faut de l'argent, et on n'en a point. « Parce que tu veux pas en chercher, » insinua le grand-père. Elle haussa vigoureusement les épaules, scia vers Urbain en lâchant. « Tout le monde n'a pas de la chance. » On ricana. Le dos d'Urbain Coët ne broncha pas, son bras travaillait d'un mouvement égal, et pourtant le sang lui battait dans les artères. Urbain avait senti l'allusion comme une insulte, car il connaissait la médisance. C'était une très héroïque histoire, malhonnêtement faussée, et qui remontait au mois d'octobre 1878. Le trois-mâts norvégien Tyrus, en fuite sous la tempête et cherchant les abris de l'île, touchait la roche des Barjols dans le chenal de la Grise entre le pilier et l'herbaudière. Le navire sombra, la mâture vint en bas. Jean-Marie Coëtte, le père, lançait le canot de sauvetage qu'il patronnait et embarquait avec ses hommes. Trois fois, ils quittèrent le port, luttèrent pendant 2 heures, jusqu'à l'épuisement, couverts d'eau et culbutés par les lames. Sur la jetée, les femmes, cramponnées aux garde-fous, hurlaient comme des chiennes en injuriant le syndic. Coëtte apaisait la population entre chaque sortie, tandis que ses canotiers s'étanchaient d'alcool. Au 4e essai, risquant l'écrasement, ils abordèrent le Tyrus et décollèrent 9 corps, agrippés à l'épave, de toute la force crispée des agonisants. Jean-Marie Coëtte avait eu la médaille et un diplôme. Mais on prétendait que la nuit suivante, pendant l'accalmie, grâce aux renseignements du capitaine qu'il avait fait parler en le veillant, Coëtte, seul dans son canot, gagna le Tyrus et emporta la caisse du bord. Une seconde bourrasque avait dispersé le navire. Depuis, le vieux Coëtte était mort bizarrement, la tête rôtie dans le foyer où on l'avait poussé, semblait-il. Son fils savait qu'il cachait de l'or, par là, sous terre. Et le voilà qui s'offrait une barque, moins d'un an après avoir enterré le bonhomme. De quoi les imaginations s'échauffaient, tandis que les commentaires allaient bon train. Le mot de la Gaude évoquait ces racontars méchamment, et Urbain Coëtte, devinant le sourire venimeux des hommes derrière lui, se cramponnait à son pinceau pour ne pas leur lancer son poing dans la figure. Au bord de la fenêtre, la Gaude s'étirait, la croupe bombée, les seins hauts, cherchant de ses bras basanés les cerises empourprées de soleil. Elle en cueillit un bouquet et les happa d'un coup en arrachant les queues de sa bouche. L'œil inquiet de Mathieu veillait le cerisier et François accourut avec le coltard pour détourner l'attention de la jeune femme. « Voilà tes 5 kilos. C'est-il pour le comte d'Olichon ?»« Bien sûr, » répliqua-t-elle en soufflant les noyaux au nez de Perchet. 11 heures sonnèrent à la cloche fêlée du vieux clocher de ville. Les goustans lâchèrent précipitamment l'outil comme des ouvriers à la journée. François bourra un sac de copeaux pour sa femme. Grand-père serra ses lunettes et Théodore déhala sur la vase la yole qui sert à franchir le port. Le soleil était haut, l'air brûlait, immobile et sec. « On prend l'apéritif ?» proposa Perchet à la Gaude. « Ah, j'ai point le temps !»« Que si ! On rentrera ensemble, et je porterai ta marmite !» offrit Double Nerf. Cependant, Urbain Coëtte s'entretenait à mi-voix avec le père Goustan. « Je pourrais point vous donner vos 100 francs ce mois-ci, rapport à l'armement. » Mais le vieux, bonhomme et amical, le tranquillisait. « Ça fait rien. Va, mon gars. Tu connais bien les goustans. On n'est pas des buveurs de sang. Tu paieras quand tu voudras, quand tu auras de l'argent. Faut point te mettre en peine. Apporte une pistole, 2, 3, à ta guise. Je te compte les intérêts comme aux autres. Honnêtement, à 6. T'as tout le temps pour toi. » C'est la manière de Mathieu Goustan. Le jour où il met une barque en chantier, il ouvre un compte au nom du client et les intérêts commencent à courir. Il sait qu'un pêcheur traîne sa note des années. Il en tient ainsi 20 qui seront indéfiniment ses débiteurs et paieront 2 fois leur barque. Mais parce qu'il ne les inquiète jamais, prend l'argent quand il vient, tous le vénèrent, chantent sa louange. Et le plus endetté de l'herbaudière ne manque pas d'ajouter en parlant du vieux charpentier « Mathieu, qu'est-ce si bon pour les pauvres gens ?» Urbain le remercia comme il devait, puis s'installa pour casser la croûte. Une tranche de fromage sur un quignon de pain, près de l'établi, d'où son regard enserrait la barque d'ensemble. Les hommes embarquèrent dans l'aïeul, Perchet assit la gaude sur ses genoux, et, en 10 coups de godille, Théodore accosta le quai en face. Le port est un étier long de 2 kilomètres, ouvert sur la mer à l'est de l'île et fermé au-delà du chantier Goustan par une écluse qui sert à irriguer les salines. Sur la rive gauche est groupé Noirmoutier, petit amas de maisons blanches coiffées de tuiles que domine le cube granitique du château, massif, fendu de meurtrières, sommé de toits pointus, et le clocher roman, lourd, parmi les touffes vibrantes des grands ormeaux. De l'autre côté, à droite, c'est le marais plat, quadrillé, fuyant jusqu'aux plages de l'ouest que bat la mer du large. Des silhouettes de moulins, comme de hauts bonshommes qui se font signe, les bras au ciel, repèrent la plaine. Des meules de sel frais éclatent d'une blancheur de neige dans la lumière. Les cultures sont rases, cachées au pli du terrain, car la brise étrille rudement les plus hautes, et des arbres apparaissent, couchés sous le vent, ainsi que des fumées. Ici et là, on découvre un âne confondu avec les champs roussis. Le long du quai, 2 dundies ventrus chargeaient des pommes de terre. À bord, les chiens dormaient et les femmes épluchaient des légumes sous une voile. Partout, des matelots arrosaient les ponts brûlants qui buvaient et ternissaient. On entendait les seaux tomber à la mer et l'eau ruisseler le long des coques. Pendant que Théodore amarrait la yole, les hommes filèrent droit chez Connard, qui tient un débit sur la place d'armes, à côté de Malchaussée, le charpentier, dont la chèvre demeure à longueur d'année sur la rue, en compagnie du bois en bille. Dans la salle basse, aux solives criblées de chiures de mouches, sous lesquelles jaunissaient les almanachs Cointreau et la loi tendant à réprimer l'ivresse publique, un gars à Piron, en vareuse de l'État, avec le béret au nom glorieux de Marseillaise, fêtait son congé aux frais de Beaulieu, patron des douanes. Ils s'alignèrent à leur suite, au bord de la table massive, et Doublener commanda le picon qu'ils regardèrent servir avec recueillement. Et seulement après la trinquée d'usage et la première lampée, les rites étant accomplis, ils parlèrent.
« C'est égal, » avoua Perchet. « C'est une belle barque. »« Hein ? Vous avez vu ça ?» appuya Beaulieu.
Du coup, Doublener lâcha la gaude dont s'empara le gars Piron.
« Oui, » dit-il, « et que je le voudrais, sur les roches, la quille en l'air, le sloop à coëtte. »«
Allons, allons, » concilia Beaulieu. « Faut point souhaiter le mal. »«
Crois-tu que nous sommes pas assez de pêcheurs à l'herbaudière qui a seulement plus de sardines ?»
Et Coët est pilote comme mon frère. Crois-tu qu'il va pas lui manger son pain, maintenant qu'il a une barque ?
Le nain grogna d'approbation en bouchonnant son collier de poils rêches. Mais Perchet, pour remettre les choses au point, affirma d'assurance.
On lui flanquera toujours ben une frottée aux régates.
À savoir, fit le nain.
À savoir, tu dis ? Nom de Dieu !
Échauffé, ils ordonnèrent une seconde tournée. Mais brusquement retentit l'éclat de 2 gifles. Le béret au nom de Marseillaise vola et des brins rouges du pompon s'éparpillèrent. La gaude se défendait contre Piron.
En v'là'un salaud ! Ça lui suffit pas de rigoler comme ça !
La chaleur s'amassait dans la salle avec la fumée des cigarettes. Des flaques luisantes tachaient la table où circulait le paquet de tabac. Les buveurs s'approchaient coude à coude et se criaient mutuellement dans le visage, tandis que les antiques besoins de suprématie et les haines animales, débouquées par l'alcool, montaient du fond de leur sang d'homme. Dans le chantier, Urbain avait déjà repris le travail. Par le large panneau ouvert sur le port, il pouvait voir l'eau immobile, avec le ciel miré, à perte de vue. Sur le quai en face, le jusant avait laissé une ligne de marée au-dessus de l'aïeul dégoustant, amarré à l'escalier. Et le cri d'une poulie, parfois, tombait des airs comme un appel de mouette. À midi, les hommes quittèrent le cabaret avec des mines de conspirateurs et la face ardente. Le soleil écrasait la terre poussiéreuse et leurs yeux clignèrent. Par bravade, ils décidèrent de retourner au chantier. Mais sur la cale, ils trouvèrent Urbain qui parlait à son frère Léon, un gars de 17 ans, joli et frêle, sans l'apparence nerveuse de l'aîné. Ils passèrent de biais, côteleux et raclant le pavage, Perchet en tête avec le nain, puis double nerf, chargé du coltard de la gaude. Et Urbain dit très haut à son frère « Tu coucheras au chantier cette nuit. Demain, ce sera mon tour. Des fois que le feu viendrait à prendre. » Perchet grogna de l'arrière-gorge et cracha. Les trois goustans sortaient de chez eux dans l'ordre hiérarchique, grand-père d'abord et puis les deux fils. Alors, la bande s'éloigna par le marais où étincelait la neige des tas de sel. On les vit longtemps faire de grands gestes et s'arrêter par instants pour discuter face à face. La barque sonnait à nouveau sous le clouage et le rabot sifflait contre ses flancs.